Co-table.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découvert, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianzetto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute !
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain afin d'aborder un sujet qui intéresse de nombreux Français et Françaises, la viticulture nature. Deuxième pays producteur et consommateur de vin, la France se place comme l'un des leaders mondiaux de la filière viticole. Blanc, rosé, rouge, pétillant, l'Hexagone a produit en 2019 près de 4,2 milliards de litres de vin, soit 17% de la production mondiale. Mais derrière ce rayonnement économique et culturel se cache un métier aux multiples facettes, celui de vigneron. Aussi bien agriculteur, vinificateur, commercial, le vigneron s'occupe de ses vignes, de la plantation à la vente, en passant par la transformation de son fruit. Ce métier a la réputation d'être exigeant. En plus d'être physique et intense en saison, la culture du raisin est particulièrement soumise aux aléas climatiques qui se font de plus en plus violents avec la multiplication des épisodes de gel, sécheresse, grêle ou encore incendie. À côté de cela, le métier a aussi été régulièrement décrié par son industrialisation, mais aussi son usage important d'intrants chimiques tels que les pesticides. La vigne est de fait une plante très fragile. Pendant la vinification, de nombreux additifs peuvent également être ajoutés, dont les plus connus sont les sulfites pour leur rôle de conservateur. C'est la raison pour laquelle des pratiques culturales alternatives sont apparues sur le devant de la scène, parmi laquelle la viticulture nature. Dans les années 80, une bande de jeunes vignerons dans le Beaujolais ont essayé de refaire le vin de leurs grands-parents, sans pesticides et autres produits chimiques. Du raisin, et seulement du raisin. Cette viticulture nature, pur jus ou encore vivante, a connu un grand succès, à tel point que depuis peu, cette pratique a été codifiée. Le vin nature a désormais une définition et un label, le label vin méthode nature. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de deux vignerons dans le Beaujolais. Jean-Claude Chanudet, aussi surnommé le Chat, vigneron propriétaire du domaine de Chamonard, et Nicolas Carlier, chef des cultures au domaine. Cet épisode, je l'ai coupé en deux parties, pour qu'il soit plus digeste. Dans la première partie, j'essaye de comprendre ce qu'est le vin nature et je vais à la découverte des vignes. La seconde partie sera l'occasion de parler de rémunération de ce métier, comment se lancer, mais aussi comprendre en détail la vinification. Bonne écoute!
Je m'appelle Jean-Claude Chanudet, je suis viticulteur depuis de nombreuses années. Et voilà, sans diplôme, sans rien, appris sur le tas. Voilà, comme beaucoup de viticulteurs de mon âge.
Comment vous êtes devenu viticulteur ?
Par hasard. Non, c'est-à-dire que la viticulture, c'est un métier un peu compliqué. Donc moi, je suis devenu viticulteur un peu par... Moi, j'ai fait beaucoup de métiers, d'autres métiers. Et je suis devenu viticulteur par passion et par... J'ai côtoyé Marcel Lapierre depuis sa plus tendre enfance. Et donc, il m'a transmis le virus. Voilà, et je suis devenu viticulteur. J'ai travaillé dans le commerce, j'ai travaillé un peu partout, et je suis devenu viticulteur comme ça, par passion, surtout par passion.
Il y a eu un déclic à un moment.
Le déclic, c'est un peu le décès de mon beau-père, qui a laissé une petite propriété à l'époque de 1,5 hectare, domaine Chamonard, que j'exploite aujourd'hui avec ma femme et ma fille. Le déclic, c'est quand il est décédé. Donc j'ai repris les manettes et les vignes se sont partagées en trois. Il y avait trois enfants. Donc Geneviève, ma femme, a hérité de 5000 mètres environ, Et après, moi, j'étais dans la verrerie, dans l'autre job. Et chaque fois que j'ai fait de l'argent, j'ai acheté des vignes, jusqu'à faire un petit domaine de 6 hectares environ.
Comment vous êtes formé à ce métier?
En côtoyant des gens comme mon beau-père, comme Lapierre, comme... Et puis, tu sais, nous, dans le Beaujolais, on est tous plus ou moins viticulteurs en Normand, parce que tout le monde fait des vignes. Il y a que le curé qui a pas de vignes chez nous, mais tout le monde a des vignes. À l'origine, à mon époque, tout le monde avait des vignes. Un petit bout, suivant la famille, quoi. Donc, on a tous été baignés dans la viticulture depuis notre tendre enfance, quoi. Voilà. On n'a pas eu de déclic. Voilà, c'est un peu ça, quoi.
On est ici aussi avec Nicolas. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Eh ben, moi, je m'appelle Nicolas. Je suis donc chef de culture ici à Château-Cambon depuis quelques mois. Et c'est Jean-Claude qui est venu me chercher, entre guillemets. Et pour reprendre un peu ses activités techniques au sein du domaine ici à Cambon.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est venu te chercher?
Eh ben, en fait, il m'a passé un coup de fil. Moi, j'étais en voyage. Et il m'a dit que, en gros, il avait un boulot pour moi et qu'il avait envie de m'aider. Et voilà. Et puis, moi, j'ai pas réfléchi longtemps et je me suis dit que j'avais envie de bosser avec lui et d'apprendre ce qu'il avait à me transmettre.
T'as toujours voulu devenir vigneron?
Pas depuis ma tendre enfance comme Jean-Claude, parce que moi, je suis pas issu du milieu agricole. Mais ça fait depuis que je suis adolescent, depuis que j'ai 15 ans.
Et comment tu t'es formé, toi?
Alors, moi, j'ai fait quelques études dans l'agriculture d'abord. Et ensuite, je me suis spécialisé via un BTS viticulture œnologie que j'ai fait à Bordeaux en alternance. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé, comme pas mal de gens de mon âge. Je suis parti au Canada, en Australie, en Californie et puis dans plein d'autres régions en France. Et puis petit à petit, j'ai découvert plein de régions, plein d'endroits, et c'est dans le Beaujolais que j'ai décidé de m'établir.
Jean-Claude, vous faites du vin nature, ça veut dire quoi?
Ah, le grand moment, le vin nature. En fait, le vin nature, on a repris le flambeau dans les années 80 avec Marcel Lapierre, Jean Foyard, Jean-Paul Thévenet et Guy Breton. À l'époque, on a repris la façon de travailler de nos parents, de nos grands-parents. Contrairement à l'époque, il y avait beaucoup de d'œnologie moderne qui préconisait des apports de levure, de soufre, tout ça. Nous, on a lutté contre ces choses-là. On luttait contre le modernisme de la viticulture. Voilà. Et après, bon, ça a été difficile pendant quelques années parce que la profession ne comprenait pas toujours notre démarche. Elle nous a souvent mis des bâtons dans les roues parce qu'on n'était pas vraiment on était des vilains petits canards. Donc, le vin nature, ça veut dire qu'on ne levure pas, on fait des fermentations spontanées, on évite de mettre toutes ces saloperies dans le vin, on limite le soufre. Et on travaille nos sols comme en bio, quoi. Enfin, de la même façon que bio, quoi. Justement pour avoir des fermentations spontanées, pour pouvoir travailler sans apport, sans entrants, en évitant les entrants, parce que il y a des années où il faut mettre des entrants, on n'est pas hostile à mettre des quelques entrants s'il est nécessaire, quoi. Mais en règle générale, on s'évite ça. On s'interdit même de mettre des intrants dans les vins. Voilà.
Donc aucun intrant d'origine chimique, sauf si nécessaire.
Ouais, enfin les intrants, on s'autorise le soufre. Si les années où les pH sont très hauts, si on a des risques de piqûres ou des trucs comme ça, donc on peut s'autoriser quelque chose, mais toujours avec une parfaite transparence, en pouvant l'annoncer à nos clients et lui dire voilà, on a mis 2 grammes, on a mis 2 grammes hectolitres, on a mis ça. Voilà, l'important c'est d'être à peu près, c'est d'être honnête avec ses clients et d'éviter de servir de la pharmacie pour faire du vin, quoi. Voilà.
On va voir les vignes.
Voilà, on va voir les vignes.
Je vous ai pas demandé pourquoi on vous appelait le chat.
Alors, on m'appelle le chat depuis ma tendre enfance parce que mon nom de famille c'est Chanudet. Donc, c'était un diminutif de mon nom. Et à Fleury, tout le monde a un sobriquet. Tout le monde, ouais. Il y en a qui s'appellent il y a des trucs un peu bizarres, quoi. Poil de rat, il y a plein de trucs. Donc, moi, c'est le chat, voilà. Et puis après, moi, quand je me suis mis en couple avec ma femme actuelle, elle s'appelle Chamonard, donc ça a renforcé les chats. Et ma fille s'appelle Chanudet et son copain s'appelle Chardini. Donc on est dans les chats jusqu'au bout des ongles, des griffes, voilà.
Donc là on est devant des vignes qui sont des raisins blancs.
Voilà, c'est des chardonnays qui ont été plantés il y a 4 ans. Donc ils rentrent en production depuis quelques temps. On a fait 2 plantations. Il y en a une qui a 5 ans, puis l'autre 4 ans, c'est ça?
Une qui a 6 ans et une qui a 4 ans, ouais.
Voilà. Il semblait qu'il y avait un truc. Moi, je suis pas très doué dans les dates, moi. La vie passe tellement vite à mon âge qu'on a l'impression de... Donc, voilà. Alors, sur le domaine de Château-Cormont, on a récemment planté des blancs, voilà, en chardonnay.
Avant, vous aviez que du rouge.
Avant, on avait des rouges. Donc, depuis quelques années, on a des Beaujolais. On fait quelques Beaujolais nouveaux. On fait des Beaujolais de garde. On fait des brouillis, des rosés et du blanc. Voilà. On a pratiquement toutes les couleurs.
Alors, le but de ce podcast, c'est vraiment de comprendre le métier de vigneron. C'est quoi qu'est-ce que ça nécessite, le travail de la vigne, si on commence au début de l'année, au début de la saison, jusqu'à la fin de la saison?
Alors là, c'est un grand moment, en fait. Au début de la saison, ça dépend. Quand on parle de début de la saison, mettons, si on prend une année, janvier, février, on a la taille. Puis après, tous les travaux s'embrayent les uns derrière les autres. La vigne pousse, on doit être là, on doit la conduire le plus propre possible. Donc nous, on fait pas de désherbants chimiques, on fait pas de pesticides. Donc on travaille les sols. Donc les années se suivent mais se ressemblent pas. Quand les années pluvieuses, on a surtout l'obligation de labourer plus souvent, enfin d'enlever l'herbe. Les années comme cette année où on a une année assez sèche, on a moins d'herbe, donc on laboure moins. Voilà. Donc c'est un boulot qui est assez prenant et qui dure toute l'année. C'est pas uniquement pendant les vendanges. La viticulture ne travaille que toute l'année. Toute l'année, c'est le...
Et faire de la viticulture comme en bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aussi traiter la vigne avec du cuivre, avec d'autres
éléments? Le dosage de cuivre, c'est limité. Nicolas va plus vous expliquer que moi. Mais ouais, le dosage de cuivre est limité. En fait, on respecte le cahier des charges de bio, quoi. Voilà. Jusqu'à maintenant, on n'était pas certifié bio parce que ça nous intéressait pas forcément, parce que c'est des démarches que moi je trouve inutiles. En fait, il vaut mieux nommer les gens qui travaillent avec des produits que nommer ceux qui travaillent sans produits. On va peut-être inverser la vapeur, quoi. Si un jour ça serait bien, on est obligé de se justifier de bien faire notre travail, alors que moi c'est pour ça que j'ai jamais voulu demander la certification. Et depuis quelque temps, depuis que Nicolas est arrivé, lui il s'est engagé là-dedans. Voilà, bon, je respecte son choix. Je suis pas contre, moi je suis pour la liberté totale, quoi.
Vous avez toujours travaillé avec les méthodes de l'agriculture biologique?
Oui, toujours. Mon beau-père travaillait déjà comme ça. Il a toujours été un peu bizarre, le vieux. Il était toujours en retard de... Donc il est passé à côté de toutes les influences négatives de l'agriculture et viticulture.
Est-ce que vin nature veut forcément dire le minimum agriculture biologique?
Le vin nature, c'est pas... En fait, il n'y a pas de cahier, vraiment un cahier des charges. Au départ, quand on a commencé avec la pierre et les petites équipes du début, là, les 5 du début, on n'était pas... Nous, on voulait faire du vin, nous. On ne s'occupait pas de nommer, de... On n'était pas dans un cadre, on était... Justement, on est sorti du cadre qui était établi par l'interprofession, par la profession, pour faire notre petite soupe à nous. Donc, on n'a pas... Il n'y a pas de cahier des charges. Et puis, moi, les cahiers des charges, ça m'emmerde, ces trucs-là. Je On est là pour nous, c'est une philosophie de vin nature. C'est il faut où on participe, où on fait ça à but commercial. Et ben ça c'est autre chose. Et nous on le fait parce qu'on aime ça et on voilà. Mais moi les cadres établis, ça m'emmerde ça.
Nicolas, comment ça se passe du coup le traitement de la vigne?
Alors le traitement, il y a plusieurs choses. C'est comment on la conduit, c'est-à-dire qu'elle elle commence à pousser. En gros, bon, on l'a taillée tout l'hiver. Elle va commencer à pousser, on va dire, au départ du printemps, vers mi-avril, on va dire. Enfin, ça dépend des années. Hein. Et en fait, à partir du moment où elle commence à pousser, eh ben, on devient un peu son esclave. C'est-à-dire que on doit, voilà, c'est une monoculture, donc on doit la faire pousser droit, on doit faire attention à ce qu'elle tombe pas malade, on doit faire attention à ce qu'elle pousse pas non plus de manière trop exubérante, et on doit faire attention à ce que les raisins soient toujours protégés. Ça c'est notre mission quoi. Notre mission c'est de produire du raisin et de l'aider à ça. Donc ensuite, au niveau des traitements, donc nous on est en conversion vers l'agriculture biologique, donc labellisée depuis le début de la saison, depuis début mai en gros. Donc en fait, au niveau des traitements chimiques, bon, donc on laboure les sols, on n'utilise pas de désherbants chimiques. Et ensuite, au niveau des traitements contre les maladies, donc mildiou, oïdium, hein, en gros c'est nos deux grosses maladies. Contre le mildiou, bah, on a une chose, c'est le cuivre. Et puis ensuite contre l'oïdium, on a une chose, c'est le soufre qu'on peut utiliser sous deux différentes manières. C'est soit du soufre poudre, soit du soufre mouillable qu'on utilise dans nos pulvées classiques. Donc ça c'est en gros la pharmacie. Mais il y a aussi toute l'approche prophylactique qui est importante. Donc cette année on n'a pas eu trop besoin de la mettre en place parce qu'on a vraiment eu une saison facile. Mais voilà, donc il faut qu'on arrive à faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de vigueur dans la vigne, parce qu'une vigne qui est trop vigoureuse, eh ben en fait c'est une vigne qui tombe plus facilement malade. Donc par exemple là dans les blancs dans lesquels on est, où il y a c'est des sols assez profonds, assez riches, on a une énorme vigueur, donc la vigne produit beaucoup de raisins, elle fait beaucoup de bois. Dans les années à venir, on est en train de réfléchir à l'enherber. Donc ça veut dire qu'on va semer des herbes qui vont venir concurrencer la vigne de manière à ce qu'elle pousse un peu moins et qu'elle s'autorégule et que du coup elle tombe moins facilement malade.
Ce qui évitera aussi le labourage des sols.
Alors on va de toute façon, on continuera toujours à travailler les sols sous le rang. Et par contre, voilà, là où dans le rang, entre les deux rangs, là, on aura une bande enherbée en fait, voilà, qui nous permettra à la fois de concurrencer la vigne, mais sur un, on va choisir les plantes qu'on va semer et de manière à décompacter les sols. Enfin, il n'y a pas que une histoire de concurrence. Et ensuite, ça nous permettra aussi de pouvoir plus facilement passer avec notre tracteur de traitement, puisqu'ici, on est sur des sols plutôt limoneux, limono-argileux. Et ce qui fait que dès qu'on a de la pluie, des orages, en fait, le sol devient très glissant. Et du coup, nos tracteurs, on peut plus rentrer dans les vignes. Et donc, on peut plus traiter, on peut plus rien faire. Donc, l'enherbement, il a plein de facettes. Et donc, nous, on va le mettre en place là cet automne. On est en train de tout préparer là pour pouvoir faire ça.
C'est quoi l'impact du soufre et du cuivre? Alors, on parle souvent de l'impact sur les sols. Est-ce que ça a un impact sur la santé?
Alors ça a un impact sur la santé, oui. Le soufre ça a un impact irritant sur les voies respiratoires, sur la peau pour des personnes sensibles, il y a des gens qui sont allergiques. Mais en fait c'est des produits qui sont dits de contact, sans rémanence. Donc en fait ça nous impacte beaucoup moins que des produits systémiques ou qui vont rentrer dans notre corps et qui vont s'intégrer dans nos cellules, etc., etc. Là, c'est vraiment ça nous irrite la peau parce que ça va nous brûler ou quoi, mais c'est tout quoi. Ça nous impacte pas à l'intérieur de nous quoi.
Tu nous as dit la vigne est une monoculture. Est-ce que c'est ça qui la rend si fragile et est-ce qu'on peut imaginer à terme une vigne en polyculture?
Alors, c'est vrai que le fait qu'elle soit en monoculture comme ça dans des grands champs et surtout dans des régions où il y a dans des régions viticoles où il y a beaucoup de vignes, ça la rend plus sensible, ça c'est sûr. Déjà parce qu'il suffit que le voisin traite pas bien sa vigne, et ben nous on va tomber malade aussi. Ça c'est certain. Et puis voilà, je veux dire, elle est toute seule. Naturellement, la vigne, elle a besoin d'une plante hôte pour pouvoir pousser dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pousser sur la plante hôte pour aller chercher la lumière. C'est une liane, hein, donc elle a besoin de s'agripper à quelque chose. Et ensuite, ses racines vont suivre les racines de la plante hôte pour pouvoir aller chercher la fraîcheur, l'eau et les minéraux. Bon, nous, on a les humains, hein, je veux dire, ça fait très très longtemps qu'on a décidé de planter la vigne comme ça, parce que c'est plus pratique, c'est mécanisable, on voit tout ce qui se passe, etc. Après, imaginez de la polyculture au sein d'une parcelle, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui essayent, qui ont planté des arbres dans les vignes, qui font des hotspots de biodiversité, il y a des gens qui ont mis des haies tout autour, enfin voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est assez neuf, donc du coup les résultats on les observe encore pas trop, mais moi je suis très à l'écoute et je regarde un peu tout ce qui se passe de partout. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à regarder, ouais.
Ça t'inquiète le traitement aux pesticides du coup dans les parcelles aux alentours?
Bah, ça m'inquiète. Je veux dire, pas vraiment, mais je veux dire, c'est dommage, quoi. En fait, c'est dommage qu'on soit pas tous dans le même bateau et qu'on se dise, on arrête d'utiliser ces produits merdiques qui sont à la fois mauvais pour l'environnement, mauvais pour la biodiversité, mauvais pour nous, et qui en plus de ça coûtent très cher. Enfin bon, voilà, coûtent très cher à la société, coûtent très cher aux vignerons, coûtent très cher à tout le monde. Voilà, c'est dommage. Mais après, d'un autre côté, on est aussi à la tête d'une entreprise, hein, donc on doit gagner notre vie, payer nos salariés, et ça, ben c'est la production qui permet ça. Donc on doit la protéger. Donc moi, je comprends les agriculteurs qui continuent comme ça, parce que bah moi j'ai 30 ans, j'ai fait des études, j'ai rencontré plein de gens, j'ai voyagé, donc je suis très ouvert d'esprit, j'ai fait plein de choses. Mais quelqu'un qui a 60 ans, qui est jamais trop sorti de sa ferme, qui n'écoute que 2-3 conseillers ou des vendeurs de produits qui passent chez lui, bah je peux pas lui en vouloir, il est pour rien, quoi. C'est comme ça, lui il sauvegarde sa récolte, il fait son boulot, et ça sert à rien de venir lui cracher dessus, quoi.
Jean-Claude, là on est devant les raisins, on est à quel stade là de la vigne?
Alors là, on va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle la véraison, c'est-à-dire la vigne va commencer à mûrir. Là. Donc, ça nous donne un petit peu la date de vendange, quoi.
On est très en avance par rapport à d'habitude?
Oui, on a de l'avance. On va certainement vendanger dans les dernières semaines du mois d'août. Alors que dans le Beaujolais, moi, du temps de ma tendre jeunesse, on vendangeait régulièrement après le 15 septembre, quoi.
Ça m'intéresse ce que vous dites. Est-ce que vous avez vu évoluer le climat depuis votre tendre jeunesse?
Ah oui, bien sûr. Il y a vraiment eu des surtout ces dernières années là, depuis une dizaine d'années là, on vendange de plus en plus tôt. Il faut regarder les statistiques de date de vendange. On voit vraiment la courbe de vendange. Moi, quand on était gamin, on vendangeait jamais au mois d'août. Hein. À part les années comme 47, mais moi j'ai pas connu, mais il y avait un millésime de temps en temps qui était précoce et qui était solaire, mais depuis 5 ans là ou 10 ans, on les empile les unes sur les autres les années solaires. On a eu vraiment des années où moi je connaissais pas vendanger au mois d'août. En 76, on avait vendangé tout début septembre. Mais c'est les seules années où j'ai vendangé très tôt, quoi. Après 47, apparemment c'était une année où on avait vendangé très tôt aussi, mais c'était un millésime de temps en temps. Tandis que là, depuis 2015, 2009, 2017, 18, 20, on empile des années chaudes.
Est-ce que ça fait évoluer la qualité du vin?
Ça fait évoluer la qualité, c'est sûr. Ça fait évoluer la qualité du vin. Surtout, c'est bien plus difficile de vinifier des raisins pour des raisons. On a beaucoup de surmaturité, donc on a des pH qui sont plus hauts. Donc c'est plus compliqué à faire du vin aujourd'hui que des années dans les années 50, quoi. Pour moi, c'est plus compliqué. La nature nous donne plus de difficultés aujourd'hui avec des années chaudes. C'est plus compliqué pour faire du vin, quoi.
Et comment vous appréhendez les autres conséquences climatiques, le grêle, la grêle, les inondations, ce genre de choses?
En fait, aujourd'hui, le problème de la viticulture, c'est quand il fait du vent, il fait trop de vent, quand il pleut trop, quand il fait sec, c'est trop sec. On a vraiment des climats extrêmes, quoi. Donc c'est compliqué. Et puis les coups de les orages de grêle, tout ça, bah ça c'est le risque du vigneron, quoi.
C'est quoi l'avenir de votre métier du coup par rapport à ça?
L'avenir du métier? Ouais, je pense qu'on va s'adapter, on va s'adapter ou disparaître, mais nous on a les deux pieds dans la terre et on va avancer comme ça. Donc l'avenir du métier, je pense qu'il va falloir réviser les façons de travailler, surtout de vinifier, donc il va peut-être falloir vendanger peut-être plus tôt, je sais pas moi. Je pense que il faut peut-être qu'on va avoir des cépages un peu plus tardifs, je sais pas. Et je pense que nous on a planté dans le Beaujolais, en fait, il s'est planté des cépages, des clones sur des recherches à l'époque où on avait beaucoup de difficultés à arriver à maturité des raisins. Donc on a fait des plantations avec des cépages des qui étaient un peu plus précoces. Et aujourd'hui, ben, on paye la facture, quoi. Je pense que on est toujours un petit peu la nature, on a le retour 20 ans ou 30 ans ou 40 ans après. Donc nous là et si on change maintenant puis qu'on repart sur une période froide, ben on va être, c'est compliqué, quoi. Ça se gère pas comme c'est une culture qui est sur du long terme. C'est pas des radis, quoi. Les radis, on change de marque de radis tous les ans, ça change. Là, quand vous plantez une vigne comme ça, vous la plantez pour une centaine d'années. Donc forcément, il y a des, voilà, je pense que ça va se réguler. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de, moi je crois que ça va s'arranger, bon. Voilà, j'ai assez...
Vous restez optimiste.
Oui, il faut rester optimiste dans la vigne. Si on n'est pas optimiste, on s'en sort pas, hein, parce que.
On s'adapte. On fait plus du tout comme avant. Hein. On observe vachement. Il y a beaucoup d'observations, en fait. Nos choix, ils sont jamais guidés par une recette ou un dogme ou quoi que ce soit. On est tous les lundis matins, comme ce matin, on est dans les vignes et on regarde ce qui se passe. Maintenant on a la météo quand même qui nous donne des indices sur la semaine qui vient. Donc on fait nos choix comme ça, on est tout le temps en train d'observer. Par exemple là, il y a beaucoup de feuillage dans les vignes, on a volontairement laissé la vigne très haute de manière à préserver les raisins, à garder de la fraîcheur. On galère parce que nos tracteurs, ils passent presque plus au-dessus de la vigne. On est vraiment à la limite. On tire des câbles, on a arraché des trucs. Enfin voilà, mais d'un autre côté, c'est la plante le plus important. Et ça, c'est par exemple, c'est l'adaptation de cette année. On a fait un pari en début de saison avec Jean-Claude, avec le chat. On s'est dit, bah oui, il va faire chaud cette année. Ça va être une année chaude. On rogne le moins possible, on laisse les vignes le plus haut possible. Ça a été le grand boulot, quoi. Mais l'année prochaine, peut-être qu'on fera complètement autrement. On ne sait pas, quoi. On va s'adapter.
Un métier où la règle, c'est de pas avoir de règles. Voilà. Il faut, c'est surtout de l'observation. On fait jamais pareil, et donc c'est comme ça qu'on va s'adapter à la climatologie, à toutes ces choses qui nous. En fait, qui nous oblige à réfléchir, quoi. Voilà.
Et là, par exemple, on est en période de canicule pendant les deux prochains jours. Qu'est-ce que ça va signifier pour la vigne?
Ah ben, la vigne, elle va s'adapter, ça va avancer. Nous, on a la chance, nous, sur Château Cambon, d'avoir des terrains avec beaucoup de, enfin, des sols assez profonds. Donc, la vigne craint pas trop le sec. Non, mais ça va aller. C'est le vigneron qui souffre, c'est pas la vigne. La vigne, elle s'adapte. Le vigneron, il a des difficultés à s'adapter à la canicule de l'après-midi.
Comment vous travaillez, du coup, dans ces conditions-là, vous?
À la cave, au frais. Non, on travaille le matin de bonne heure, au lever du jour. Et puis, après-midi, on essaye d'avoir des travaux à l'étiquetage ou à la cave. Et puis, on ménage le... Voilà. Parce que c'est difficile de travailler en pleine chaleur. Non, on essaye d'adapter. Et puis, il y a ça va. Et puis, en plus, là, on arrive dans une période où il y a bien moins de travail, quoi. On a fait le plus gros, quoi.
J'entends que vous êtes une équipe mixte. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes dans les vignes.
Il y a toujours eu des femmes dans les vignes. Déjà, il y a toujours eu les femmes de vignerons. On en a très peu parlé, mais elles ont toujours été présentes. Et si les vignerons sont là, c'est parce qu'il y avait aussi leurs femmes qui ont toujours été là. Ça c'est important. Après, il y a toujours eu des femmes qui ont travaillé en petites mains dans les vignes. Ça a toujours existé. Après, par contre, ce qu'on voit beaucoup, c'est des femmes qui prennent la gestion de domaine, des vigneronnes qui sont seules, qui travaillent pas forcément avec leur mari ou leur mec. Ça on le voit de plus en plus. Ouais.
Vous, Jean-Claude, vous avez tout de suite dit d'ailleurs que vous avez repris le domaine avec votre femme et votre fille.
Oui. Ma fille est revenue au domaine depuis 4 ans. Hein. Oui, elle était partie pour faire d'autres activités. Elle fait toujours, elle est vétérinaire et elle est revenue au domaine pour reprendre le domaine, en fait. Mais il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui reprennent les domaines des papas. Avant, c'était les mecs, mais maintenant, c'est assez souvent les filles qui reprennent.
Ça pose la question de la transmission. On a, en tout cas, de manière générale, chez les agriculteurs, beaucoup de départs à la retraite et du coup, la question de que deviennent les domaines derrière. J'imagine que vous, ça vous a questionné.
Oui, en fait, les domaines, aujourd'hui, tous les gens, on peut parler du Beaujolais parce que c'est quand même assez... Il y a 60% des viticulteurs qui vont prendre leur retraite dans les 10 ans, là. Donc, à mon avis, les exploitations vont s'agrandir parce qu'il n'y aura pas toujours un héritier ou une héritière pour reprendre le domaine. Donc, les voisins vont acheter les voisins. Ça va se passer comme ça, quoi. Mais il y a beaucoup de domaines qui restent en souffrance de manque de bras.
Est-ce que c'est pour ça que vous avez fait appel aussi à Nicolas dans un but de transmission ?
En fait, Nicolas, je l'avais rencontré quand il était dans les pépinières et j'ai vu qu'il était intéressé par la viticulture, qu'il était passionné. J'ai vu dans son œil qu'il pétillait pour la viticulture. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était un passionné. C'était pas un employé ou un... Moi, ça m'intéresse pas. Je veux des gens qui sont passionnés, qui vivent à 150% leur boulot, quoi. Parce que la passion, c'est la seule façon dans la viticulture de s'en sortir. Les gens qui sont pas passionnés, ils n'arrivent pas dans la viticulture. La nature est ingrate. Des fois, vous allez travailler une année, vous allez prendre des grêlons, vous allez perdre votre récolte, vous allez perdre votre salaire. Donc, il faut être vraiment passionné pour s'accrocher à ce métier-là. Tous ces métiers en monoculture, là, c'est compliqué, quoi. Quand vous pouvez perdre en quelques minutes, vous perdez toute votre récolte. Donc, si vous n'êtes pas passionné, vous découragez, vous changez de... Et moi, ça m'intéressait d'avoir des gens passionnés autour de moi. C'est pas les employés, je veux, c'est les passionnés. Les passionnés, ils comptent pas leurs heures, ils comptent pas leur temps, ils vivent le domaine. On n'est pas dans une entreprise où on pointe le matin à 6h, on arrête à 8h et voilà. Non. Moi, c'est pour ça que j'ai été chercher Nicolas. Surtout parce que j'ai senti que il était passionné et intéressé par la région du Beaujolais. Voilà. C'est pour ça que j'ai été le chercher.
On va parler formation. Est-ce que c'est un gros enjeu, d'après toi, justement, pour des pratiques culturelles alternatives, la formation ? Est-ce que toi, tu as été formé à ça ? Ou justement, au contraire, bah, c'est le chat qui t'a formé, c'est les stages que tu as pu faire ?
Ouais, alors, le cursus école classique, les BTS, les bacs pro, les écoles d'ingénieurs, tous ces trucs-là, les méthodes alternatives, c'est pas vraiment là qu'on les apprend, quoi. Petit à petit, ils commencent à en parler parce qu'ils ont plus vraiment le choix. Hein. Mais moi, c'est pas là que j'ai appris la bio ou la biodynamie ou les choses comme ça. Moi, je me souviens par exemple quand on était en BTS, on avait foutu un sacré bazar pendant le cours sur les désherbants chimiques. On était toute une bande, nous on était déjà contre ça, et on avait décidé, on est arrivé déguisé en cours, enfin bon, c'était toute une histoire, parce qu'on avait... Enfin voilà, apprendre comment on dose un produit sur un truc, c'est facile, on n'a qu'à lire l'étiquette, quoi. Mais d'avoir des heures de cours là-dessus, alors qu'on aurait pu avoir, j'en sais rien moi, des heures sur autre chose, un peu plus intéressante, par exemple sur le matériel végétal, sur les porte-greffes, sur les choses comme ça, on a eu autant d'heures là-dessus que sur les désherbants, quoi. Après, je veux pas rentrer dans la critique ou dans les choses comme ça. C'est comme ça. Il y a un programme et il faut le respecter. Par contre, après moi, après mon BTS, je savais que j'avais pas du tout les bagages suffisants pour pouvoir me lancer là-dedans, ou en tout cas prendre la responsabilité d'un domaine. J'ai pris des billets d'avion, quoi. Et je suis parti ailleurs, voir ce qui se faisait ailleurs. Et puis j'ai rencontré plein de gens. Et puis il y a pas que le boulot, il y a aussi une soirée qu'on passe avec un copain chef de culture ou un copain vigneron ou un copain qui a bossé sur un domaine, qui raconte une expérience. Et puis c'est des soirées comme ça, à boire des canons et à parler technique, quoi. Parce qu'on est passionné, c'est ça, et que ça nous gêne pas. On peut en parler jusqu'à 5 heures du mat de, je sais pas moi, de n'importe quoi, mais de télétech technique, de monsieur machin qui a décidé de planter des noisetiers dans ses vignes. Enfin, j'en sais rien. Et puis de réfléchir. Voilà, c'est important à faire, quoi. Et la formation, de toute façon, c'est la vie qui nous forme. Hein. Et moi, j'ai pas appris que des choses dans le bio ou dans les choses comme, enfin, j'ai pas appris que ça. Mais par contre, j'ai rencontré des hommes, des femmes, des personnages qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie de choisir ma voie, quoi.
Nicolas, est-ce que tu peux nous montrer exactement, nous expliquer plutôt ce qu'on voit là?
Là on est dans les vignes, on est dans les rangs de vignes. Donc la vigne, elle est très verte. Donc ça c'est un bon signe, hein, ça veut dire qu'elle va bien.
Vous arrosez ?
Non, on n'arrose pas. Non, on n'arrose pas. Donc en fait, on peut voir par-ci par-là des apex qui, en fait, des bouts de branches qui sont un petit peu plus blancs avec des vrilles qui sont en train de dépasser. Donc ça veut dire qu'en fait ça veut dire que la vigne continue à pousser. Donc elle est pas en stress hydrique, on est vraiment dans une vigne qui va bien. Voilà. Après on voit les grappes, hein. On les voit même très bien puisqu'on a fait un effeuillage un peu léger pour aérer, permettre une aération des grappes de manière à ce qu'il y ait pas trop de maladies qui puissent s'installer dans des amas de végétation. Et puis que si, bon, on n'a pas eu besoin de le faire, mais si on avait eu besoin de faire un traitement, que les produits puissent atteindre directement les grappes, plutôt que d'être couverts par une feuille, puisqu'on est en produit de contact, donc le produit ne marche que s'il est appliqué sur ce qu'on vise, quoi. Voilà. Ensuite, on voit que les sols sont travaillés, donc il y a pratiquement pas d'herbe, hein, on voit que le sol est meuble, parce qu'en fait, on a passé les intercepts il y a la semaine dernière. C'était notre dernier passage. Là, nos tracteurs, ils sont rangés, on les utilise plus. Donc là, on vient de changer de parcelle. Donc là, on est dans des vieux gamets. Et la couleur de la vigne, elle est quand même vachement plus, elle tend plus vers le jaune. On voit que la vigne, elle pousse plus, hein, si on regarde de plus près. En fait, là, au bout des branches, ça fait comme une espèce de petite boule. On sent que la branche, elle pousse pas, quoi. Et quand on regarde les feuilles, elles sont vertes, mais avec des comme jaunies. Donc ça, en fait, ça veut dire que, en gros, la vigne se nourrit mal. C'est-à-dire qu'en fait, elle ingère mal l'azote, qui sont pas très bien minéralisés dans les sols. Et ça, c'est lié au manque d'eau. Voilà. Et donc, en fait, là, on est sur une vigne qui craint le sec, là. Et quand on regarde un peu plus en détail à l'intérieur de la vigne, on voit tous les raisins qu'il y a. Et il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, on voit le changement de la couleur, la DB. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisins. Et donc, l'un dans l'autre, ça fait que la vigne, elle commence à vraiment avoir chaud, quoi.
Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là?
C'est gérer l'herbe, hein. Elles viennent pas en concurrence. Donc là, tu vois, on est sur un rang qu'on peut pas. Là, on peut pas le labourer ce rang parce que il y a un fossé sur le côté. Donc, on le débroussaille. Hein. Donc, c'est un rang qui est tondu. Donc, on voit pas vraiment de différence avec le rang d'à côté qui est labouré. En fait, ce qu'il faut faire, c'est l'herbe. On veut pas la détruire, surtout pas. Nous, on travaille dans des sols vivants. Par contre, il faut qu'on la gère, quoi. Parce qu'en fait, on parlait de prophylaxie tout à l'heure. Ça aussi, c'est une méthode prophylactique, c'est de faire en sorte que l'herbe ne vienne pas pousser dans les ceps. Parce qu'en fait, ce qui apporte la maladie, les champignons qui nous embêtent, hein, le mildiou, l'oïdium, c'est ces amas de végétation qui créent de l'humidité, et cette humidité, elle favorise le développement du champignon. Et l'herbe, elle est pile poil au niveau des grappes, quoi. Donc en fait, on veut surtout pas qu'elle vienne trop, parce que sinon, Nos raisins, ils tombent malades et puis on les récolte pas, quoi.
Et vous vous êtes obligé, j'imagine, de mettre de l'engrais. Vous en mettez en début de saison pendant l'hiver? Comment ça se passe?
Alors nous, on met du compost. On met du compost de fumier, hein, fumier de vache en majorité. Et ça, on le met en gros au mois de novembre. Voilà. C'est le bon moment pour le faire parce qu'en fait la vigne elle est en train de perdre son feuillage, mais elle a toujours une activité racinaire importante. Ça lui permet aussi de mettre en réserve, donc elle, en fait elle se nourrit tout de suite de l'azote qui est directement assimilable quand on met le fumier, enfin le compost. Et puis après en fait le fumier, le sol ingère le fumier, hein, c'est un amendement qu'on fait, c'est pas une fertilisation. Donc en fait on donne pas à manger à la vigne, on donne à manger au sol. Et ensuite la vigne elle se nourrit dans le sol. Voilà, qui est enrichi parce qu'on lui a donné. Voilà, c'est un peu ça notre politique. Cette année, on en a pas mis parce que moi je suis arrivé un peu sur le tard et puis c'était compliqué à mettre en place, etc. Et puis 2021, ça a quand même été une année très difficile au niveau de la viticulture. Donc tout le monde était un petit peu fatigué et c'est quand même un gros chantier.
Rappelle-nous ce qui s'est passé en 2021.
Il a gelé en début de saison, ensuite il a grêlé au mois de juin et entre-temps il a fait que pleuvoir. Ce qui fait que il y a eu beaucoup de maladies, ça a été un boulot pas possible, quoi. 2021, ça a été une année très fatigante pour tout le monde et en plus de ça pour récolter pas grand-chose, quoi.
Sans compost, la vigne peut pousser. Parce que là t'en as pas mis en mois de novembre.
Ouais, on en a pas mis cette année, mais la vigne par exemple on est dans une vigne qui est plantée depuis plus de 50 ans. Donc elle se débrouille quand même, hein, je veux dire, et puis elle a pas besoin de beaucoup, hein, la vigne. Non, la vigne elle peut pousser. Par contre, au bout d'un moment, ce qu'il faut, c'est qu'elle commence pas à chuter, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'elle pousse plus. Là, quand on regarde, on voit les bois là, enfin les branches, elles sont quand même assez grosses. Enfin, on a vraiment du bois. Ça, c'est super, quoi. C'est une vigne qui va bien, qui est bon là, elle a chaud, elle a soif, mais elle va bien globalement. Par contre, c'est sûr que si on donnait pas à manger au sol pendant, je sais pas moi, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ben au bout d'un moment, elle est fatiguée, quoi. Mmh. Et alors là, pour la relever, là, ça devient très compliqué.
Toi, comment tu appréhendes ces difficultés comme en 2021 par rapport, là, t'es au début de ta carrière, de ton métier. Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse? Est-ce que t'es optimiste comme le chat?
Ouais, je suis optimiste. Non, il faut surtout pas lâcher, quoi. C'est super tout ce qui se passe et les années compliquées, c'est comme ça, ça fait la beauté du métier, hein. On est content quand il y a une année facile, voilà, comme disait le chat tout à l'heure par rapport à Bacchus, voilà, on prie Bacchus. Mais non, nous on a, c'est comme ça, voilà, on s'adapte, quoi. On a beau dire des fois on a de la chance cette année, c'est une belle année et tout, non, c'est pas de la chance, c'est la nature qui nous fait aussi un cadeau, quoi. Je veux dire, c'est des années comme ça qui nous motivent à passer les années compliquées aussi, quoi.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill d'Écotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.écotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.